défi du développement durable, j'aurais dû mettre au pluriel, les défis pluriels, multiples. C'est une demande qui m'a été faite d'aborder sous l'angle du développement durable une ville africaine, et il m'a semblé que Cotonou se prêtait particulièrement à la réflexion. Vous allez voir la multiplicité des contraintes et donc des défis de la pérennité de Cotonou. Donc Cotonou, capitale économique du Bénin, et non pas capitale politique. La capitale politique, c'est Porto Novo, une ville de 300 000 habitants qui se trouve pas loin, on va le voir. Donc Cotonou fait partie d'une véritable mégalopolis littorale africaine. On parle toujours de la mégalopolis américaine et on oublie qu'il y en a sur d'autres continents, et notamment en Afrique subsaharienne. Un chapelet d'agglomération relié par une route bitumée le long du golfe de Guinée. Si on additionne les agglomérations millionnaires et les villes petites et moyennes, on arrive à 20 à 25 millions d'habitants sur cette bande littorale. Ces capitales portuaires, les capitales portuaires qui jalonnent le golfe de Guinée, sont pour la plupart des créations coloniales. Bon, dans certains cas, il y avait des villages de pêcheurs, mais le fait de créer des villes et de faire des aménagements portuaires relève donc de la période coloniale. Du coup, la proximité de plusieurs capitales situées pratiquement l'une à côté de l'autre s'explique par le découpage de l'espace, au moment de la conférence de Berlin, et puis après, perpendiculairement aux côtes, et donc chaque territoire se dote d'un port d'exportation des produits bruts, et donc d'une capitale. C'est comme ça qu'on se retrouve avec une configuration assez unique au monde, avec des capitales les unes à côté des autres, donc l'énorme Lagos, le tout petit Porto Novo, qui en fait n'a de capitale pratiquement que le statut, qui réclame la réhabilitation dans ses fonctions de capitale, Cotonou, la capitale économique du Bénin, et d'autres qu'on peut joindre en quelques heures de véhicule. Donc l'ensemble de ces villes se trouve dans une zone densément peuplée, même les zones rurales sont densément peuplées dans cette zone du golfe de Guinée. C'est une côte qui se prêtait certainement à l'implantation de ports à l'époque coloniale, mais qui se prête assez peu au développement, à l'extension urbaine, parce que c'est une côte à lagunes, avec des cordons littoraux, des lagunes en arrière, et donc des sites étroits, extrêmement fragiles. Donc on a une région où la croissance urbaine a été extrêmement rapide depuis les années 50, croissance particulièrement rapide de Cotonou par rapport à Porto Novo, qui est donc la capitale en fin de compte, et qui est restée de taille relativement modeste, tandis que la ville de Cotonou, si on additionne Cotonou les communes voisines, Abomey-Calavi qui la touche complètement, c'est comme Lyon et Villeurbanne, vous ne vous rendez pas compte que vous quittez Cotonou pour entrer à Abomey-Calavi, ou d'autres communes, on a une urbanisation moins dense parce qu'il y a des bas-fonds marécageux, mais enfin tout ça quand même, on va le voir, forme un continuum, on arrive à une agglomération d'un million deux à peu près, sans compter Porto Novo. Après, si on veut jouer à l'addition, on peut atteindre des chiffres un petit peu plus élevés. En effet, le taux de croissance de la population dans cette région, il est important, principalement en périphérie, et notamment dans des zones qui ne sont pas encore urbanisées, enfin qui n'ont pas le statut d'urbaine, qui sont des zones rurales officiellement, tout autour, avec des taux donc qui peuvent, enfin entre 92 et 2002, c'est les deux derniers recensements, donc en 10 ans, voilà des zones qui ont quadruplé, quintuplé leur population. Donc cette urbanisation, c'est un défi pour le développement durable, et elle s'opère sur des milieux très riches, mais extrêmement fragiles. Cotonou est une ville de création coloniale. Il y avait des implantations précoloniales, mais elles n'étaient pas urbaines, dans une zone qui n'était évidemment pas prévue pour, enfin aucune zone au monde est prévue pour être urbanisée, mais là, effectivement, on est quasi au niveau de la mer. Alors, on est dans une zone où l'urbanisation est très rapide et très extensive, très étalée, en raison d'atouts économiques particuliers de cette zone, qui est un espace d'échange internationaux frontaliers. Donc, c'est une dynamique très importante en Afrique de l'Ouest, notamment dans le golfe de Guinée, que ces échanges entre ces pays dont les frontières ont été découpées à la suite de la conférence de Berlin. En fait, donc avec un trafic, un transit international très important, ce transit international Nigeria, Bénin, Bénin-Togo, Togo, Ghana, Ghana-Côte d'Ivoire, hein, ce trafic, ces échanges s'expliquent par les différentiels monétaires très importants. On a de la monnaie forte à certains endroits, le franc CFA indexé sur l'euro, de la monnaie faible ailleurs, le Naira par exemple au Nigeria. Monnaie forte, monnaie faible, pays pétrolier, pays non pétrolier. Donc tout ça est facteur d'échange très important, soit de produits fabriqués ou extraits sur place, le pétrole du Nigeria, soit de produits importés par un de ses ports et réexportés dans le pays d'à côté. C'est la spécialité de Cotonou, de jouer le rôle d'entrepôt pour les pays voisins. Donc, en transit international. Ce transit international se fait comment ? Eh bien, il se fait par la route. Il y a une option tout routier qui a été prise pour les échanges transversaux est-ouest. À l'époque coloniale, on crée des voies ferrées, mais elles sont nord-sud. Elles vont de l'intérieur des territoires vers la côte. Donc, aucune voie ferrée est-ouest. Et quand il en existe une petite, par exemple, il en existait une entre Cotonou et Porto Novo, elle est abandonnée. Rareté des transports en commun, très grand individualisme économique hein, dans cette zone, que ce soit le commerce, que ce soit les transports, les déplacements, et l'outil des déplacements, y compris les déplacements de marchandises, les taxis-motos. Et enfin, une autre activité d'échange qui explique l'engorgement de la circulation, la pollution, etc., l'import-export de véhicules d'occasion, qui est une spécialité africaine, enfin une grande spécialité de Cotonou. C'est le premier port pour l'importation de véhicules d'occasion, 350 000 par an. Donc on va revoir ça dans le détail. Donc, le plus grand marché d'Afrique de l'Ouest, alors bon, il se dispute avec un ou deux autres, mais enfin, bon, disons que c'est le plus grand marché d'Afrique de l'Ouest. 40 000 vendeurs, 100 000 personnes présentes les jours de grosse affluence, hein, donc un jour sur cinq, qui est un marché de réexportation, hein, principalement, notamment de réexportation de tissus, wax, de pagne, etc. Donc, ils sont pour la plupart importés d'Europe, mais surtout de Chine. Et ce grand marché donc, se trouve au cœur de Cotonou et d'intenses flux routiers transfrontaliers qui traversent hein, cette ville et qui vont vers ce marché ou qui en partent ou qui vont du port et qui en partent ou qui vont de Lagos et qui vont jusqu'à Abidjan et qui ne font que traverser Cotonou. Donc si vous voulez, il n'y a qu'une seule voie. Cette voie littorale, elle passe au milieu des capitales. Donc elle ne passe pas seulement au milieu de Cotonou, elle passe au milieu d'autres capitales. Mais à Cotonou, il n'y a pas de voie de contournement. Donc c'est soit vous passez là, soit vous passez dans l'eau, quoi, hein, dans l'eau, dans la lagune, enfin bon. Bref, vous ne passez pas. Donc, c'est évidemment un défi totalement majeur et c'est une situation totalement bloquée. Alors, cette option tout routier, elle a été donc, encouragée par des politiques récentes et notamment de financements internationaux pour aménager des axes entre le Nigeria, le Sud-Nigeria et Cotonou, et entre Porto Novo et Cotonou. Donc, des financements de toutes origines, notamment le Nigeria a contribué à cofinancer, ce qui est quand même assez unique au monde, enfin, qu'un pays cofinance une voie dans le pays d'à côté. Hein. Donc, le Nigeria a cofinancé l'aménagement de ce tronçon donc, qui mène vers Porto Novo, et il a également participé au cofinancement du doublement, deux fois deux voies, de l'autoroute entre Porto Novo et Cotonou. Mais évidemment, le Nigeria n'est pas le principal financeur. Hein. Il y a des financements internationaux, européens, etc., qui ont contribué à cette option du tout routier au détriment d'autres voies de transport qui existaient à l'époque coloniale, notamment la voie ferrée. Donc on a un choix qui a été fait selon une logique de durabilité. C'est intéressant parce que l'argument international pour défendre ça, c'est une route durable. Alors durable de quel point de vue ? Pas durable du point de vue atmosphérique, mais durable du point de vue économique. Donc une route construite bien goudronnée, etc. Durabilité, car péage. Péage, donc paiement obligatoire. Je vous rappelle qu'il n'y a qu'une seule voie possible. Il n'y en a pas deux, il n'y en a qu'une. Donc vous ne pouvez pas échapper au péage. Sinon, de Porto Novo à Cotonou, vous prenez la pirogue. Hein. Donc vous êtes obligé de passer par là. Il n'y a aucune alternative. Vous payez votre péage. Ça alimente un fonds routier. Le fonds routier va permettre d'entretenir la route. Donc c'est ce que la Banque mondiale, ou dans le cadre de l'initiative de gestion routière, c'est ce qu'elle appelle une opération de développement routier durable. Hein, mais durable d'un point de vue évidemment économique et pas environnemental. Et l'axe ferroviaire Cotonou-Porto Novo, qui allait en fait jusqu'à Pobé, donc au nord de Porto Novo, qui était un axe qui servait à drainer les produits de la palmeraie à huile pour l'exportation, cet axe a été totalement abandonné, hein, alors que bon, c'est quand même un capital, je veux dire un héritage bon, colonial, mais enfin qui aurait pu être mis en valeur. On comprend aisément que si on utilise la voie ferrée, on ne prend pas la route. Si on ne prend pas la route, on ne paye pas le péage. Le péage est géré par des privés qui ont cofinancé la route. Enfin, vous avez compris que là, on a deux logiques qui ne vont pas ensemble. Et donc, l'axe ferroviaire est à l'abandon, même s'il a été relancé une ou deux fois pendant la construction de la route, justement, enfin, en 1999, un petit peu, pendant les travaux, et puis en 2010, mais ça a duré à peine quelques mois. Cette voie routière, la vitesse moyenne est 37 km/h. On a un axe extrêmement encombré, avec des embouteillages légendaires, plus à l'intérieur de Cotonou, à vrai dire, que dans l'entre-deux-villes, mais quand même, aux heures de pointe, bon, bah, les gens font comme dans beaucoup de grandes villes, ils calculent à quelle heure ils partent le matin, ils partent beaucoup plus tôt par rapport à leur heure de travail pour parvenir à ne pas être coincés dans les embouteillages. Et on a énormément de migration pendulaire parce qu'à Porto Novo, il n'y a pratiquement pas d'emplois. La plupart des emplois sont à Cotonou, donc les gens font la navette le matin et le soir. Et avec aucune alternative, finalement, à l'automobile. Alors, de plus, le long de cette autoroute se trouve, cette autoroute est jalonnée de parcs à voitures d'occasion. Donc, Cotonou, le port de Cotonou est le cœur du marché des véhicules d'occasion. 350 000 importés par an, enfin plus ou moins selon les années. Alors, il y a eu des projets pour limiter la circulation de ces véhicules, qui sont des véhicules très polluants, évidemment, qui sont des véhicules bon marché. Donc, ça entraîne la multiplication du nombre de véhicules, parce que des véhicules pas chers, étant donné que ce sont des pays pauvres, bon, si vous importez des véhicules pas chers d'occasion, bah, les moyens vont pouvoir s'acheter des véhicules. Tandis que si vous importez que des véhicules neufs, il n'y a que les riches qui peuvent en acheter. Donc la Banque mondiale et des instances internationales ont cherché à freiner l'importation de véhicules d'occasion encourager le développement d'usines de montage dans les pays africains. Deux, pour limiter la pollution atmosphérique. Ça s'est fait, par exemple, à Dakar, où des usines de montage automobile ont été implantées. Donc là, par exemple, le Sénégal a interdit l'importation de véhicules d'occasion. Puis, devant la grogne populaire, la notion de véhicule d'occasion était à 3 ans, elle a été portée à 5 ans, puis elle a été rallongée à jusqu'à 8 ans. Donc aujourd'hui, au Sénégal, on peut à nouveau importer des véhicules jusqu'à 8 ans. Parce qu'on comprend bien les tensions sociales que ça peut générer. Pouvoir acheter sa voiture, c'est la paix sociale. Je reviens d'Algérie, l'essence est à 22 centimes d'euros le litre. Vous pouvez passer 5 heures par jour dans les embouteillages sans aucun problème. Mais bon, l'accès à la voiture, bon, évidemment, c'est un moyen aussi de combler les classes moyennes, voire les classes populaires. Donc, importation de véhicules d'occasion, ils ne sont pas destinés au marché béninois, qui est petit, je vous rappelle que le Bénin, c'est environ 8 millions d'habitants, mais ils sont pour beaucoup destinés à la réexportation, notamment au Nigeria, à peu près 90%, mais aussi dans les pays du Sahel. Ce qui veut dire que ces véhicules rentrent par le port et ils repartent au Nigeria par la route. Donc des véhicules qui n'ont pas passé le contrôle technique en Europe. La plupart viennent d'Europe ou ailleurs. Il y en a qui viennent de Chine aussi. Et les gens qui font ce convoi, finalement, travaillent de manière complètement informelle. Les importateurs, c'est des grosses sociétés libanaises pour la plupart, tenues par des Libanais pour la plupart, mais grosses, très formelles, officielles, etc., mais qui embauchent des gens qui sont payés au trajet, au convoi. Donc plus vous faites de trajet, plus vous êtes payé. Donc il faut rouler très vite, avec des véhicules en très mauvais état. Donc mieux vaut ne pas être derrière. Donc ils sont convoyés la nuit, en pleine nuit, entre minuit et 5 heures du matin, puis ensuite reconvoyés vers la sortie, vers le Nigeria, et par des petites routes pour les véhicules en très mauvais état que les douaniers ne doivent pas voir parce qu'ils sont en trop mauvais état. Et là, ça se fait à toute vitesse, et ça se fait en faisant plusieurs trajets dans la foulée. Donc quelquefois, on se dope un petit peu en prenant des substances, et ça rend les choses très dangereuses. Donc cette importation de véhicules d'occasion, elle est à la fois source d'insécurité routière, elle est source de pollution, parce que c'est des véhicules qui n'ont pas été contrôlés correctement, elle est source de risque, mais elle est aussi source d'emploi. Et on va voir, c'est une grosse problématique, c'est-à-dire durabilité environnementale, durabilité sociale. On est dans un pays en majorité pauvre. Le Bénin, c'est un DPMA, 510 dollars par habitant et par an, avec une majorité de population vivant sous le seuil de pauvreté, qui lui-même est un seuil fixé très bas. Et donc, toute activité qui crée des emplois, même si elle ne les crée pas, est bonne à prendre, même si tout ça génère des impacts environnementaux. Donc c'est une pollution extrême qui est liée donc au nombre de véhicules, hors normes, et qui est également liée au carburant utilisé et au grand nombre de deux roues qui desservent la capitale et les zones voisines. Donc on sait qu'environ 100 000 taximotos disposent d'une licence. Alors ils ne sont pas 100 000 à circuler en même temps, ils sont peut-être 60 à 70 000, mais enfin bon. plus ceux qui ne sont pas taximoto et qui, les gens qui ont tout simplement des deux roues et qui circulent. Donc ils assurent les trois quarts des déplacements urbains, donc c'est le problème récurrent. Périodiquement, il y a des interdictions, de même que pour l'importation de véhicules d'occasion. Périodiquement, on annonce qu'on va interdire, on suspend, on ralentit, puis ça reprend. Alors les taximotos, donc, dans la ville, présentent un énorme avantage. Ils vous prennent là où vous êtes, il y en a sans arrêt qui passent, et ils vous amènent où vous voulez aller. Donc, que vous alliez dans un quartier informel, où il n'y a pas de voie routière, que vous ayez des colis avec vous, que vous soyez seul, que vous soyez deux, etc., ils sont d'une souplesse extrême. Ils vont vous amener pratiquement à votre porte. Ces taximotos se sont diffusés. Enfin, il y a un collègue qui s'appelle Nupo Agosu, avec qui nous travaillons, a étudié le rythme de leur diffusion. Donc, à partir du début des années 80, principalement, c'est des migrants qui étaient au Nigeria et qui étaient au Gabon, béninois, qui sont chassés et qui reviennent en masse s'installer et qui vont lancer cette activité à Porto Novo, faute d'avoir une autre activité. Le gouvernement n'ose pas empêcher la chose parce que, bon, il y avait vraiment un problème là, de réinsertion sociale, et de fait c'est une source très importante d'emploi pour des jeunes qui sont nombreux. Le Pénin est un pays très jeune et qui trouverait peut-être pas d'emploi sinon, parce qu'aux 100 000 de Cotonou, il faut ajouter ceux qu'il y a ailleurs dans le pays. Donc ces taximotos ne sont pas forcément propriétaires de leurs véhicules. Il y a des fonctionnaires, des commerçants qui ont des parcs de véhicules, donc qui louent à la journée aux émigrants, donc qui ont intérêt à faire le maximum de courses le plus vite possible en passant devant celui qui est devant eux pour prendre un passager, donc d'où le risque. Et ces taximotos, dans les quartiers périphériques ou dans les villages voisins de Cotonou, sont organisés avec des rotations, de manière à ce que chacun à son tour puisse avoir des clients, donc il y a des gares, si vous voulez, de taximoto. Donc c'est pas forcément un métier à plein temps, ça peut être un complément d'emploi, mais c'est aussi parfois un métier à plein temps. C'est un métier à risque, pas de casque évidemment, la seule protection, si je peux dire, c'est la casquette et la blouse de la mairie qu'on peut éventuellement se passer d'un taxi à l'autre. Risque surtout de maladies respiratoires, là, il y a des études qui ont montré des taux effrayants de maladies de bronchite chronique, d'asthme et de maladies plus graves liées au benzène présent dans le carburant. C'est beaucoup des moteurs de temps. Donc c'est vraiment un métier à risque. C'est quand même un métier qui fait aussi donc tourner le commerce rural et frontalier. On va mettre 6 palettes de boissons gazeuses importées frauduleusement du Nigeria. On peut mettre des sacs de céréales, des sacs de maïs, etc. Donc ils peuvent desservir n'importe quel village. Donc c'est quand même un facteur qui dope l'économie rurale. Les taximotos sont de grands utilisateurs de carburant et aussi des grands transporteurs de carburant importés frauduleusement du Nigeria. Il y a une contrebande, je dirais, assez débonnaire. N'imaginons pas des mafias affreuses. Ça, tout se passe en famille. Ça a été bien étudié par une de nos étudiantes, Julie Charles-Dominé, je crois l'avoir vu entrer tout à l'heure, il y a déjà longtemps. Elle a fait des comptages d'entrée d'essence par la lagune, de trafic de zémidjans, etc. Et donc, les zémidjans sont à la fois, si vous voulez, les agents de ce trafic, entre guillemets, mais aussi les consommateurs. Ils achètent par petites quantités. Ils n'ont pas de grosses sommes d'argent qui leur permettraient de faire le plein à la pompe. C'est pareil pour les automobilistes. Donc, l'offre de carburant, de contrebande, est à la fois, si vous voulez, permise par ce déplacement en taximoto, par des routes discrètes où on croise pas trop les douaniers. Elle est donc permise par eux. Ils en sont pratiquement les premiers consommateurs et ils utilisent des moteurs de temps pour la plupart encore. Ils utilisent une essence coupée à l'huile, donc extrêmement polluante. Alors, l'intérêt de ce carburant de contrebande, qui est souvent de très mauvaise qualité, parce qu'il est plus ou moins trafiqué, c'est le bas prix, parce que le Nigeria, jusqu'à 2010-2011, subventionnait son carburant, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Donc, il y a eu un renchérissement important de l'essence importée par contrebande depuis un an à peu près, qui, du coup, rend un peu moins rentable l'usage de ces stations. Mais ça a toujours été comme ça, c'est toujours un peu fluctuant. Le Nigeria a cesser de subventionner pour satisfaire à une demande de la Banque mondiale, aussi bien dans un an, il y a un problème social, il resubventionne son carburant et à nouveau la contrebande devient intéressante. C'est le principe de la contrebande, c'est toujours de jouer sur les variations de cours. Alors, comment pourrait-on améliorer ces transports? Donc, je vais essayer à chaque fois de vous expliquer ce qui est proposé en ce moment. Donc, on pourrait favoriser les transports publics. Donc, deux options ont été explorées. Le train, une très brève expérimentation, mais qui a tourné court en 2010. Et le bus, ça paraît évident, mais plusieurs fois depuis l'indépendance, des sociétés de bus ont fait faillite et n'ont pas été rentables à Cotonou. Donc là, c'est tout récent, depuis août 2012, il y a une nouvelle tentative avec lancement de Benafrique et 52 bus, qui ont d'abord pas très bien marché parce que le prix du trajet à 300 francs était plus cher que le trajet en Zémidjan, et c'était le prix d'un seul trajet, pas d'aller-retour, pas de correspondance. Le Zémidjan, il vous prend là où vous êtes, il vous amène chez vous. Vous prenez le bus, vous vous arrêtez à l'arrêt de bus et vous devez reprendre un Zémidjan. Donc, c'est peu intéressant. Donc, pour que ça marche, évidemment, il faudra des aménagements tarifaires qui, pour l'instant, on n'en est pas là. Ça vient juste d'être lancé. Donc, une expérimentation de bus qui est, on pourra en rediscuter, mais quelque chose qui peut paraître un peu évident, mais qui ne l'est pas à Cotonou. Différents projets concernent le parc d'automobiles individuels et les Zémidjans. On pourrait le renouveler, ce parc, donc cesser d'importer des véhicules d'occasion. Mais il y a de très gros intérêts en jeu, financiers, avec des lobbies, des grosses familles liées au pouvoir. Et il y a aussi beaucoup d'emplois non qualifiés. On pourrait entretenir les véhicules selon des normes anti-pollution, faire payer les pollueurs. Donc il y a une loi qui est passée, normalement un principe pollueur-payeur. Normalement, il devrait y avoir des contrôles et les gens devraient payer si leur véhicule est très polluant. Mais plusieurs fois, ça a été reporté, pour des raisons évidentes, de mauvais état général des véhicules, des gens qui n'ont pas les moyens et de tensions sociales possibles. On peut aussi remplacer les motos à moteur 2 temps par des moteurs à 4 temps. Il y a eu un projet comme ça financé par la coopération française, par l'Agence française de développement, avec une subvention donnée aux chauffeurs de Zémidjan, ou plutôt aux propriétaires Zémidjan, qui acceptaient donc de se séparer de leur moto 2 temps pour acheter une moto 4 temps neuve. Sauf que le montant de la subvention s'est avéré insuffisant par rapport à la baisse du prix des motos importées de Chine. Donc il était plus intéressant pour les Zémidjans, soit d'encaisser l'argent et de revendre sa moto à un collègue. Enfin, il y a plein d'arrangements ont été faits, ou de la vendre à l'intérieur, ou de la garder, de s'en acheter une autre et de multiplier son activité. Donc ça, il y a beaucoup de tentatives ont été faites. Et consommer un carburant mieux raffiné, donc création de stations-service modernes avec carburant contrôlé. Mais évidemment, là, tout dépend des fluctuations du prix du carburant venu du Nigeria et emporté de manière frauduleuse. En ce moment, par exemple, le carburant nigérian de contrebande est cher, donc les stations-service marchent. Mais ça, c'est toujours fragile. Alors, deuxième série de problèmes qui se posent à Cotonou sont les impacts de l'urbanisation sur les milieux littoraux, donc l'urbanisation elle-même. Donc inondations, érosion littorale et en général déstructuration des campagnes, recul de l'agriculture, mitage complètement anarchique. Alors si on regarde Cotonou, on a donc une ville au niveau de la mer. La partie la plus élevée de Cotonou se trouve entre 5 et 7 mètres d'altitude. C'est les zones en gros qui sont rarement inondées. Et tout le reste est régulièrement et normalement inondé. C'est-à-dire que l'inondation est juste quelque chose de normal par rapport au site. Donc il ne s'agissait pas le réchauffement, le changement climatique et la montée du niveau marin qui provoque les inondations. C'est plutôt qu'on a urbanisé des zones qui sont normalement inondables. Les inondations, problème crucial qui revient sans arrêt devant de l'actualité en se demandant mais que faire, que fait le gouvernement? Le problème, c'est vraiment l'urbanisation dans ces zones. De plus, une partie de l'urbanisation se fait sur des berges, dans des zones qui sont vraiment considérées comme inondables, qui ne sont pas normalement urbanisables et qui sont remblayées pour être urbanisées, notamment remblayées à base de déchets, et qui sont donc zones particulièrement fragiles et vulnérables, on va le voir. Alors, il faut se rappeler qu'au cœur de Cotonou et au bord du chenal qui a été percé entre le lac et la mer, on a donc ce fameux marché d'Antokpa. Et tout autour, on a des berges qui, normalement, n'ont pas le droit d'être... où on ne peut pas urbaniser, donc elles restent en blanc sur les cartes, mais où se trouvent, évidemment, des quartiers On comprend aisément que les gens, surtout les gens qui n'ont pas de revenus réguliers, vont chercher la proximité du grand marché d'Antokpa, où ils vont trouver des emplois non qualifiés au jour le jour. Donc c'est des zones qui sont très convoitées. Donc par conséquent, des quantités importantes d'habitants vont s'installer sur ces berges, vont essayer de les remblayer tant bien que mal. Il y a évidemment des évictions périodiques, mais bon, les gens reviennent, parce que où peuvent-ils aller ? Et on a donc parfois de l'habitat qui s'inspire de l'habitat traditionnel sur pilotis, ce qui n'empêche pas ces maisons d'être inondées. Alors il ne s'agit pas, celui qui lui construit la maison n'est pas forcément celui qui l'habite. Hein. Les un peu pauvres vont gagner de l'argent en louant aux vraiment très pauvres qui n'ont pas les moyens de construire. C'est des logements qui sont inondables toute l'année, donc une très grande insalubrité. Les déchets servent de remblai, mais sont évidemment des... Bon, bah, je ne vous fais pas de dessin, hein, des bouillons de culture. Alors, le remblai de déchets a vraiment une fonction sur ces berges, qui sont les berges à proximité du grand marché, donc avec un fort potentiel immobilier. Imaginons, si le remblai tient, une couche d'ordure, une couche de terre jaune, stabilisation, construction précaire, une baraque, une maison à un étage, et ensuite... des immeubles qui ne sont pas forcément très stables, mais vous parvenez à obtenir une autorisation, une régularisation, etc., là, vous avez gagné un espace à lotir sur les berges, donc dans la zone de l'hypercentre économique de Cotonou. Donc vous comprenez que la problématique des déchets, des remblais, de l'insalubrité est très compliquée. Elle est compliquée par des enjeux fonciers. On ne peut pas la régler uniquement en se disant « bon, le déchet, c'est sale, le déchet, source de maladie, etc. » On est ici dans des quartiers hein, où il y a des cas de choléra en permanence, des cas de maladies hydriques, etc., hein, bien entendu, mais où les enjeux et les jeux d'acteurs sont très compliqués. Voilà, donc... Comment faites-vous pour gérer les déchets ménagers si vous êtes maire de Cotonou ? Donc, le maire de Cotonou, c'est l'ancien président de la République, Nicéphore Soglo. Il a été président de 91 en 96. Son premier adjoint, c'est son fils. Donc il a été élu, hein. Bon, le maire a été élu. Et comment faire pour gérer les déchets ménagers dans une ville où finalement ils ont un rôle important hein, de remblaiement ? Alors tout ça renvoie à des directives internationales dans le cadre du développement durable, hein, etc., et notamment dans le cadre des objectifs du millénaire pour le développement, où il est bien affirmé que l'accès à l'eau et à l'assainissement est une des priorités. Alors une stratégie nationale de gestion des déchets a été adoptée pour correspondre aux engagements internationaux du Bénin, qui est un pays très aidé, car très pauvre. Hein, donc c'est un pays qui reçoit énormément d'aide internationale et qui doit donc s'engager à respecter des normes internationales. Donc... ont été adoptés des principes de gestion de la filière. Le déchet ne doit pas être regardé que comme une nuisance, mais comme une ressource. Vous avez compris, c'est une ressource pour le remblaiement. Ça peut aussi être une ressource pour du recyclage. Il faut que la filière des déchets crée des emplois. Et les communes doivent élaborer un plan. Le Bénin a adopté une décentralisation en 2003, sous influence internationale, hein, et une démocratisation. Les maires des communes sont élus. Et donc, ça revient aux communes. C'est les communes qui doivent normalement adopter un plan de gestion des déchets. Mais... comme elles ne sont guère efficientes, de grandes agences d'aide internationale prennent en main, en fait, les projets de gestion des déchets solides ménagers. Et c'est un plan très, très important et qui a fait beaucoup de, qui a fait des émules dans d'autres villes africaines, par exemple à Brazzaville, qui a été mis en place à Cotonou. Alors, le principe, c'est de créer de l'emploi. Et pour créer donc des travaux à haute intensité de main-d'œuvre, hein, HIMO, haute intensité de main-d'œuvre. Donc l'idée, c'est beaucoup de petits opérateurs regroupés en ONG, organisations non gouvernementales, qui vont collecter les déchets à domicile. Et il est supposé que les ménages donc vont payer, enfin c'est le principe, vont payer pour le ramassage des déchets sur abonnement. Donc en effet, alors il y a eu des campagnes, ça a été plus ou moins imposé, enfin plus ou moins... Il y a une certaine marge de manœuvre laissée aux clients, mais bon, on a quand même 46 000 ménages qui sont clients, revendiqués par le plan. Et ces ONG, donc avec des porteurs, des pousseurs, hein, qui sont souvent des migrants, hein, c'est souvent des migrants ruraux pauvres, évacuent ces déchets. Et puis des femmes récupératrices d'objets sont censées les transformer. Donc vous voyez, tout ça correspond vraiment à des... un peu une utopie hein, de la valorisation du déchet communautaire en permettant un développement à la fois écologique et social. Alors, bon, on va voir malheureusement qu'il y a divers problèmes qui font que, malgré cet effort, la situation n'a pas énormément changé depuis 10 ans. Alors, d'abord, ces récupératrices d'objets, etc., font concurrence à des informels, à des artisans informels du déchet qui existaient déjà, qui n'ont absolument pas été pris en compte dans le projet d'Oxfam, et qui sont des migrants Ibo du Nigeria, qui, depuis très longtemps, font des chiffonniers, si vous voulez, font du porte-à-porte, récupèrent les déchets à domicile, notamment les déchets métalliques, les exportent et au plastique, les exportent au Nigeria, et où ils sont transformés parce qu'il y a là-bas des filières industrielles de transformation. Au Bénin, il n'y a pas de filière. Il n'y a pas d'usine qui permet, par exemple, de transformer les sacs plastiques ou le plastique en produit. Donc ça reste quand même un peu anecdotique. Et surtout, en suspens, il y a le problème des décharges. Car, en fait, tout ce modèle a insisté beaucoup sur la collecte à domicile, mais pas sur le devenir des déchets. Et ce qui a été prôné, c'est la décharge, c'est-à-dire le site d'enfouissement technique. Je vous rappelle qu'en Europe, c'est interdit. Donc on a promu en Afrique, on promeut en périphérie des villes africaines ce qu'on est en train d'interdire dans les pays développés, c'est-à-dire la création de décharges où il y a, et là, ce qui a été créé à Ouida, enfin à côté de Cotonou, en 2006, sans imperméabilisation des sols et sans récupération des lixiviats. Donc on en est là. Et là, en 2012, en septembre 2012, une mission d'audit environnemental de la décharge a été diligentée dans le cadre d'un plan d'urgence environnementale. Vous voyez, on en est vraiment à se dire que faudrait sans doute que cette décharge a un impact, mais voilà la solution qui a été trouvée pour l'instant pour les déchets à Cotonou. Sachant qu'une grande partie des ménages ne veulent pas évacuer leurs déchets puisqu'ils servent de remblai, hein, pour le remblai des berges. Autre problème crucial et même vital, le problème de l'évacuation des excrétas. Car il n'y a pas d'égout, donc la majorité des systèmes sont des systèmes autonomes, hein, les habitants gèrent eux-mêmes leurs excrétas. Il y a une seule station de dépotage des boues à 12 km de Cotonou pour toute l'agglomération, et dans les quartiers inondables de berges qu'on a vus tout à l'heure, vous ne pouvez pas creuser une fosse quand vous êtes déjà quasiment sous le niveau de la mer. Donc c'est évidemment à la fois un problème environnemental, un problème social, un problème parce que ces quartiers sont des quartiers informels, donc si vous voulez, ils n'existent pas. Sur les cartes, ces zones sont blanches. Ils ne devraient pas, enfin une partie de ces quartiers, la frange de ces quartiers ne devrait pas être urbanisée. Mais les gens sont là, donc, et le problème existe. Donc des étudiantes, il y a déjà plusieurs années, avaient cartographié toutes les latrines des berges de Cotonou. Nous avions fait du terrain en pirogue. Et on a identifié le problème. C'est un problème que personne ne veut voir, que personne ne voit. Hein. Ça répugne à tout le monde et c'est complètement sous-estimé. Alors, une solution en zone humide, c'est évidemment l'édification de latrines fermées qui doivent être surélevées pour que la fosse étanche, si possible, soit au-dessus du niveau de l'inondation, avec ventilation. Après, c'est le même problème que pour les déchets ménagers. Que faire des excrétas ? Donc, la meilleure solution, la plus hygiénique pour les évacuer, c'est le camion vidange. Sauf que le coût de la vidange est très élevé. Donc, pour un particulier, ça peut être compliqué. Donc, on peut faire appel généralement à des vidangeurs manuels. Mais donc, ces vidangeurs manuels vont ensuite vider le contenu là où ils peuvent. Hein. Ils sont à pied, ils tirent des charrettes, ils ne vont pas très loin. Alors les vidangeurs, les entreprises de vidange qui vont vidanger ce genre de dispositif collectif peuvent aller à la station de traitement, la seule, qui reçoit déjà pratiquement deux fois les quantités pour lesquelles elle a été conçue. Donc, c'est un lagunage à ciel ouvert et quand on regarde de plus près, on voit qu'il déborde et qu'en fait, l'eau entre guillemets, qui est déversée dans la mer, est une eau extrêmement polluée. Enfin, bon, en fait, il n'y a pas vraiment d'épuration. Et en plus, un tiers seulement des sociétés de vidange utilisent véritablement ce lagunage. Alors là aussi, dans un plan qui vient d'être lancé en 2012, il est prévu la modernisation et l'extension de ce lagunage. Ça fait 10 ans que différents plans successifs annoncent la nécessité de revoir, d'améliorer cette station de traitement. Donc il y a eu plusieurs documents, notamment en 2008, le livre bleu Bénin qui fait un constat très pessimiste de l'état de l'environnement et notamment de l'assainissement. Et en 2010, le plan d'hygiène et d'assainissement communal a été mis en place, financé par la coopération allemande, la GTZ. Il fait un constat alarmant. Bon, pour l'instant, on en est là. Et en 2012, un plan d'urgence environnementale vient d'être adopté il y a à peine un mois. Les pressions environnementales se déroulent pas uniquement dans Cotonou intramuros, si je peux dire, ou intra-eau, mais également en périphérie d'agglomération. Et notamment, elles se traduisent par un recul des zones végétales, par un recul des zones agricoles, par un mitage complètement anarchique, absolument pas contrôlé, de la palmeraie. Avec, quand vous voyez un panneau cloué sur un arbre, ça signifie que le secteur a été vendu à quelqu'un qui attend une régularisation, enfin un lotissement officiel, pour être sûr qu'il ne sera pas expulsé. Et quand il est sûr, il construit. Il fait reculer très fortement les zones agricoles autour de Cotonou. Donc la grande ville, c'est intéressant parce que c'est une source de revenus pour les campagnes. On appelle ça le vivrier marchand quand on cultive des légumes, etc., dans les campagnes qui sont cultivés pour être vendus en ville. Mais quand l'urbanisation se déroule comme ça de manière anarchique, eh bien finalement les zones cultivées reculent énormément et la ville va grignoter complètement les zones rurales. Et faute d'espace ou pour essayer d'avoir des terrains moins chers, une partie également de l'urbanisation périphérique se fait dans des zones humides. Et là on retombe dans des problèmes équivalents à ceux dont j'ai parlé tout à l'heure, donc des zones qui sont remblayées, pas forcément des déchets, ça peut être de la terre, du sable, mais n'empêche que c'est des zones complètement... Enfin, c'est des bas-fonds sous le niveau de la lagune et qui donc ne devraient pas être urbanisés, ne devraient pas être occupés. Et là, on n'a absolument pas de... Enfin, on est dans un développement complètement spontané, dans une spéculation complètement spontanée, donc qui peut amener ensuite, quelques années plus tard ou 10 ans plus tard, des quartiers à être urbanisés et à être chaque année inondés et donc complètement insalubres. Autre impact dans les zones rurales périphériques, c'est le prélèvement de sable pour la construction. Et quand ceux qui construisent sont des gens qui n'ont pas de moyens, ils vont chercher le sable le moins cher possible. Et donc, ce qui n'est pas cher, c'est utiliser le sable marin, le sable des plages. Et c'est aussi des sources d'emploi pour des ruraux prolétarisés, donc qui ne s'adonnent plus à l'agriculture parce que, d'une part, ils ont le commerce frontalier, ils peuvent être zémidjans, taximoto, et ils peuvent être extracteurs de sable. Périodiquement, donc, il y a des interdictions. La dernière interdiction qui semble respectée date de 2009, mais c'est un problème, ça devient un problème social pour les localités concernées parce que beaucoup de jeunes gagnaient pas mal d'argent en se livrant à ce type d'activité. Ces activités les maintenaient dans leur milieu rural, périurbain, mais rural quand même. Donc si on n'a plus ce revenu-là, que faire dans une zone où il y a de très fortes pressions foncières, puisque beaucoup de gens vendent pour l'urbanisation. Donc les emplois agricoles se raréfient, etc. Alors ces impacts aggravent une érosion côtière qu'on trouve sur tout le golfe de Guinée, et qui n'est pas uniquement liée évidemment aux carrières de sable, mais qui est aggravée par eux. Et on a un recul du trait de côte qui va impacter certains quartiers urbains de Cotonou. Certains quartiers de Cotonou ont été grignotés par la mer, et avec des maisons détruites, etc. Donc des parcelles qui étaient inventoriées au registre foncier urbain ont été gommées, en fait, ont dû être gommées, parce que tout simplement elles ont été emportées. Donc la lutte contre l'érosion est un défi, comment lutter contre la mer, un défi maintes fois répété. Et un projet a été lancé, de nombreux projets successifs ont été lancés. Donc le plus récent a été lancé en 2003. Il a été vraiment, il est devenu vraiment opérationnel en 2009, mais il est toujours en cours. Il y a de nombreux retards et c'est une source de mécontentement, de polémiques politiques, etc. Et cette lutte consiste en la construction d'épis pour essayer de limiter un petit peu l'érosion. Qui est principalement lié à la succession donc des aménagements portuaires le long de la côte et à des barrages aussi qui limitent l'apport sédimentaire vers la mer. Alors, quand on interdit les carrières littorales, on va se reporter ailleurs, dans d'autres zones où le sable est gratuit, entre guillemets, prélèvement de sable lagunaire. Donc là aussi, c'est des migrants, c'est généralement pas les gens du village eux-mêmes, il y a des étudiants qui ont enquêté là-dessus, c'est souvent des migrants venus d'un peu plus loin, complètement prolétarisés, plus ou moins déracinés dans cette zone-là, et qui toute la journée extraient le sable, non pas ici sur place, mais dans l'eau, plongent, ramassent le sable dans l'eau, chargent des pirogues, vont les débarquer, les femmes font des allers-retours en portant du sable sur la tête. C'est vraiment des activités de pauvres qui n'ont à vendre que leur force, que la force de leurs bras. Thank you. Alors, vous avez vu un peu le tableau. Donc, de nombreux projets, évidemment, et de nombreuses réflexions ont été menées sur ces problèmes, ces défis, ces contraintes d'urbanisation à Cotonou. Et finalement, malgré la mise en œuvre de diverses expériences dont j'ai essayé de vous rendre compte, et face à l'urgence, donc un dernier projet vient d'être lancé, donc le projet d'urgence de gestion environnementale en milieu urbain, financé par la Banque mondiale en octobre 2012. Et son objectif, sans rire, c'est la résolution des problèmes environnementaux qui affectent la zone métropolitaine autour du lac Nokwe. Donc c'est à suivre, hein, puisque ce projet vient d'être lancé. 5 communes sont bénéficiaires, Cotonou et les communes voisines, et parmi les priorités, eh bien, la gestion des déchets solides et liquides, les inondations et le risque de catastrophes naturelles. Donc, voilà, Cotonou au défi du développement durable, je crois que le défi reste entier. On a donc une zone qui est très fragile, on a aussi des concurrences vraiment entre développement économique, développement social, enfin tout au moins survie sociale, peut-être plus que développement, hein, être aux émigrants toute la journée, est-ce que c'est vraiment du développement? Il y a des émigrants qui arrivent en faisant ce métier à s'acheter une parcelle, hein, donc c'est quand même quelque part c'est un revenu, c'est une dignité, et donc les pouvoirs publics sont gênés. Le Bénin est une société quand même très consensuelle, c'est un mode de fonctionnement très consensuel, et interviennent assez peu de manière draconienne, si vous voulez. On pourrait dire du jour au lendemain on interdit les émigrants, mais ce serait l'émeute, 100 000, s'imaginer. Donc il faut y aller doucement. On a un pays qui est un pays en paix, hein, c'est un pays en paix, c'est un pays démocratique, c'est un pays qui a pratiquement très peu de ressources naturelles, qui a peu de ressources minières, qui vit des échanges, il vit de sa paix, il vit de l'aide internationale beaucoup. Donc on est sans arrêt dans de la négociation, dans du compromis. Mais bon, évidemment, là, il y a des contradictions internes. Et j'ai essayé de les partager avec vous. Donc toute la documentation qui m'a servi pour cet exposé a été collectée sur le terrain directement. Hein. Je me suis rendue très souvent au Bénin. J'ai piloté plusieurs programmes là-bas, notamment sur les déchets. Et elle s'appuie sur une collaboration avec l'IRD, avec l'université d'Abomey-Calavi, qui est l'université de Cotonou. Notamment deux collègues, Étienne Domingo et Nupo Agoussou. De nombreux étudiants de master ont participé, et des doctorants. Voilà, je vous remercie de votre attention.